Oui, bonjour, ici Psycho Balado. Nous sommes le 3 novembre 2023. Je suis psychologue, Yves Dalpé, mon nom. Et nous poursuivons, bien entendu, la lecture de mon livre dont le titre est « L'infidélité n'est pas banale ». Alors, nous sommes rendus à la partie qui s'intitule « Ma grille d'analyse des comportements extra-conjugaux ». Alors, j'y vais tout de suite. Il y a autant de sortes d'infidélité qu'il y a d'infidèles. L'humain est complexe, les gestes sexuels, la nature du désir, les motivations inconscientes sont infinies. Comment s'y retrouver? C'est pourtant ce que cherche fébrilement le couple qui se présente en crise à mon cabinet. Et la question prédominante qui les tenaille est celle de la survie du couple. C'est ce qu'il faut d'abord évaluer. Dès mon premier contact, je m'emploie donc à détecter chez chacun des partenaires les indices du désir de poursuivre la relation ou non. Parfois, l'infidèle veut mettre fin à sa relation depuis longtemps, mais l'autre conjoint ne veut pas le voir et s'accroche désespérément, prêt à pardonner l'impardonnable. D'autres fois, c'est l'ambivalence qui s'exprime dans l'infidélité, et quand les raisons de cette ambivalence s'éclaircissent, le désir de se réinvestir dans la relation conjugale renaît de ses cendres. Très souvent, l'infidélité exprime un malaise conjugal qui peut se travailler au-delà des espoirs du couple. C'est là que la compétence de l'intervenant entre en jeu. Quelle joie pour moi, en tant que psychologue clinicien, de détecter chez un couple en désarroi les réparations possibles, tant sur le plan du fonctionnement interpersonnel du couple que du fonctionnement personnel de chacun des conjoints, et de réussir à communiquer ma vision. Voici donc ma propre grille d'analyse des comportements extra-conjugaux. Elle pourrait vous être utile. Elle comprend 6 variables, toutes enchevêtrées les unes dans les autres. La survie du couple est liée directement à ces variables. 1. Le niveau d'engagement dans la relation conjugale. 2. Le niveau d'implication dans les comportements extra-conjugaux. 3. La fonction des comportements extra-conjugaux. 4. Le fonctionnement interpersonnel du couple. Et 4. C'est mon problème visuel qui me joue des tours. J'ai de la difficulté à lire. J'attends une chirurgie pour les cataractes. Désolé. Alors, j'explicite maintenant chacune de ces variables. Premièrement, le niveau d'engagement dans la relation conjugale. Voyons ce qu'il y en est. Ce niveau d'engagement est intimement lié à la satisfaction globale dans la relation. Mais les hommes sont différents des femmes sur ce point. Les hommes auraient plus tendance que les femmes à se permettre des écarts sexuels même s'ils sont satisfaits de leur vie de couple. Les femmes auraient tendance à sauter la clôture seulement quand elles sont insatisfaites de leur vie affective avec leur conjoint. D'où une interprétation erronée, typiquement féminine, de la gravité de l'infidélité de leur conjoint. Faisant de la projection, la femme est convaincue, à tort, que son mari ne l'aime plus puisqu'il s'est permis une liberté sexuelle avec une autre femme. En général, il y a tout de même une corrélation évidente entre le niveau de satisfaction conjugale et l'infidélité, autant pour les hommes que pour les femmes. plus l'insatisfaction est grande, plus la tendance, plus la tentation d'aller ailleurs se fait sentir. Si les infidèles ne sont pas tous automatiquement insatisfaits de leur relation conjugale, tous les insatisfaits conjugaux sont plus à risque d'infidélité. De toute évidence, la première question à laquelle il faut répondre après la découverte d'une infidélité, concerne la volonté de poursuivre la relation conjugale ou d'y mettre fin. Parfois, c'est celui qui a trompé, qui veut partir, et parfois, c'est le contraire, c'est le conjoint trompé. De la décision ferme de se séparer jusqu'à l'ambivalence lancinante et pénible, tout est possible. Parfois, les pleurs intenses dans mon bureau en disent long sur la douleur d'une séparation redoutée. Le psychologue clinicien peut être d'un grand secours pour éclairer la lanterne des conjoints en détresse qui concluent trop vite que leur union est vouée à l'échec ou qu'ils se sont trompés dans le choix de leur conjoint. Cette question sera abordée dans le chapitre 8 qui s'intitule La grande question, partir ou s'investir. Autre critère maintenant, le niveau d'implication dans l'infidélité. D'habitude, c'est quand je vois le client seul, à seul, que je peux sonder cette dimension qui est très importante dans l'évaluation des chances de survie du couple. La gradation en cette matière est illimitée. Tout arrive, d'un simple sourire séducteur, d'une seule rencontre avec du désir, d'un baiser unique, d'une seule session de caresse, d'une seule nuit, jusqu'aux liaisons sentimentales de longue durée, en passant par les écarts sexuels réguliers avec de multiples partenaires, sans oublier les rêveries solitaires. Tout est possible. L'Américain Glass en 1981, Glass et Wright, distinguait trois types de relations extra-conjugales qui discernent le niveau d'implication de l'infidèle dans son incartade. Dans une première sorte d'infidélité, Glass classe les relations amoureuses sans sexualité qui relèvent de l'infidélité même s'il n'y a pas de sexualité. Ce serait surtout l'apanage des femmes. Dans une deuxième catégorie, Glass mentionne l'inverse, c'est-à-dire des infidélités purement sexuelles sans implication amoureuse. Les hommes seraient plus enclins que les femmes à cette sorte d'infidélité. Et finalement, la forme d'infidélité la plus dangereuse pour la survie du couple serait évidemment la combinaison de sexualité accompagnée d'implications sentimentales. De son côté, le psychiatre Pittman, en 1995, distinguait quatre sortes d'infidélité. Dans une première, qu'il appelle les accidents, il fait référence aux écarts sexuels non planifiés ni anticipés. Une danse un peu trop lascive avec une collègue de travail lors d'un party de bureau. Peut donner des idées non planifiées. Trois petits points. Dans ces cas-là, l'infidèle n'est pas nécessairement insatisfait de son mariage et il est peu probable qu'il développe de forts attachements pour sa partenaire sexuelle. Il en va autrement de la deuxième catégorie d'infidélité de l'homme appelée les arrangements conjugaux. Cette sorte de relation extra-conjugale prend naissance pour compenser les lacunes sexuelles et affectives de la relation maritale de l'infidèle. Ce genre d'infidélité ne serait pas propre à développer de l'amour romantique entre l'infidèle et la partenaire extra-conjugale, selon Pittman. Ensuite, toujours Pittman regroupe les individus qui changent constamment de partenaire sexuel sans aucun engagement émotif, ceux qu'on appelle les coureurs de jupons ou les donjuans. Finalement, Pittman parle de relations extra-conjugales romantiques pour décrire les situations où les gens, au contraire, développent des liaisons amoureuses avec une forte attirance durable pour l'amant ou la maîtresse. Cette forme d'infidélité persistante dans le temps et entourée de beaucoup de secrets serait bien sûr la plus dérangeante pour le couple original et la plus menaçante pour sa survie. Terminons notre tour d'horizon des auteurs qui nous éclairent sur le niveau d'implication des infidèles dans leurs relations extra-conjugales en résumant la pensée de Levine qui date de 1998. Celui-ci propose sa propre typologie de l'infidélité avec l'originalité d'inclure, en plus de la liaison extra-conjugale et du sexe pour le sexe, les activités sexuelles avec un partenaire imaginaire. Il fait référence aux gens qui évitent sexuellement leur conjoint pour s'adonner plutôt à la masturbation intensive en utilisant des images, des photos, des vidéos, des spectacles de danseuses nues ou le clavardage sur Internet. Levine voit cela comme une forme d'infidélité. Et aussi surprenant que cela puisse paraître, Levine pense que ce type de dépendance sexuelle peut être plus difficile à délaisser que les autres formes d'infidélité. Le niveau d'implication dans les comportements extra-conjugaux est donc important dans l'évaluation de l'infidélité. Parfois, la personne infidèle s'est aventurée très loin dans une relation parallèle d'où elle ne peut plus reculer. J'essaie toujours de vérifier si le point de non-retour a été atteint malgré la persistance de certaines ambivalences. Pour d'autres, ce sont des habitudes de vie sexuelle intensive, avec beaucoup de partenaires réels ou fantasmatiques qui prennent le dessus sur la réalité conjugale et deviennent nécessaires comme de la drogue. Plus le conjoint infidèle s'est lié à quelqu'un d'autre, ou plus il a l'habitude de la liberté sexuelle, plus il est difficile de rétablir l'harmonie conjugale et la confiance dans le couple. Je dirais même que plus la feuille de route est longue, moins la personne a tendance à se sentir coupable. Ce sont probablement les personnes qui ont le moins d'écart sexuel qui s'en sentent le plus coupables. Autre sous-titre, la fonction des comportements extra-conjugaux maintenant. Une autre variable fondamentale dans l'évaluation de la gravité de l'infidélité, c'est la fonction qu'est venu remplir ce comportement dans la vie d'un infidèle. À quoi sert l'infidélité? En effet, l'infidélité n'arrive pas par hasard, pour rien. Elle sert à quelque chose. Fort de mon bagage théorique et de mon expérience clinique, je risque ma liste des différentes fonctions des relations extra-conjugales dans la vie d'un individu. Selon moi, tout comportement extra-conjugal a pour but de remplir l'une des raisons suivantes, conscientes ou inconscientes. 1. Satisfaire des désirs personnels normaux. 2. Combler des besoins personnels pathologiques ou existentiels. 3. Exprimer des sentiments négatifs à l'égard du conjoint. 4. Compenser des lacunes conjugales. 5. Maintenir une distance conjugale. 6. Explorer. Bon, là, je pense que ça arrêtait là. Excusez-moi, je reviens donc au premier. Donc, le premier critère concernant la fonction des comportements extra-conjugaux. La première raison, je veux dire, c'est satisfaire des désirs personnels normaux. Quelqu'un se laisse aller à vivre des fantasmes et s'amuser sans vouloir mettre son mariage en péril. Une rare liberté inoffensive en voyage d'affaires, par exemple, comme un congrès ou lors d'un party de bureau, d'une sortie non préméditée avec des copains ou des copines. Je classe ici la curiosité et aussi le désir de vivre une expérience. Le plaisir tel quel arrive suffisamment pour s'y laisser glisser momentanément. Je vais reprendre ma phrase. Le plaisir tel quel attire suffisamment pour s'y glisser momentanément. L'envie de mettre un peu de piquant dans sa vie. L'alcool, à l'occasion d'une fête, peut désinhiber au-delà de ce qu'on se permettrait normalement. Cela peut même friser le manque d'affirmation de soi, la difficulté, un soir de festivité, de repousser un bon ami ou une bonne amie. On veut lui faire plaisir. Aussi, l'élasticité de la permission extra-conjugale entre en jeu ici et l'infidèle tient pour acquis, à tort ou à raison, qu'il ne met pas sa relation conjugale en danger. En général, les infidèles de cette catégorie sont des personnes bien dans leur peau et satisfaites de leur relation conjugale. Autre aspect maintenant, combler des besoins personnels pathologiques ou existentiels. Je classe ici, par exemple, ceux qui utilisent la séduction pour combler un besoin excessif de valorisation, aussi ceux qui versent dans une sexualité frénétique par besoin de sensations fortes. J'ai rencontré des clients qui étaient médusés par leur motivation extra-conjugale alors que leur relation de couple était très satisfaisante pour découvrir qu'ils avaient cédé à leur pulsion sexuelle pendant un épisode maniaque engendré par un succès professionnel transitoirement euphorique. Certaines personnes ont des relations extra-conjugales comme si elles tenaient lieu d'une sorte d'automédication contre l'anxiété, la dépression ou la détresse. Parfois, la pulsion extra-conjugale exprime un refus du vieillissement et de la mort. Un peu dans le même sens, on peut avoir de la difficulté avec les limites dans la vie et regretter amèrement de ne pouvoir vivre avec plusieurs partenaires sexuels, de ne pas pouvoir exercer d'autres professions que la sienne ou de vivre dans plusieurs grandes villes simultanément. On refuse en quelque sorte notre finitude. Je place aussi dans cette catégorie ceux qui ont besoin de repérer compulsivement des traumatismes sexuels, aussi ceux qui éprouvent le besoin de fuir leur pénible réalité. Un client m'a déjà exprimé que ses escapades sexuelles lui servaient de soupape à la pression excessive de son travail. C'est aussi ici que je classe ceux qui ont besoin de dissocier la sensualité de l'amour, d'où leurs aventures extramaritales. Mais on peut aussi entretenir une libido excessive et avoir une vie sexuelle extramaritale par besoin de contact interpersonnel fusionnel. Je reviendrai sur ces sujets au cours des prochains chapitres, mais c'est probablement dans le chapitre 6 traitant des diverses formes de sexualité excessive et dans le chapitre 9 abordant les troubles de la personnalité que je traduirai mieux les motivations pathologiques individuelles sous-jacentes aux diverses formes d'infidélité. Autre motif de relation extra-conjugale, autre motivation. C'est exprimer des sentiments négatifs à l'égard du conjoint. Un autre objectif poursuivi de façon inconsciente ou non par l'infidèle peut être d'exprimer son insatisfaction face à l'autre conjoint. Des individus en colère qui sont infidèles pour se venger de l'autre, quelle que soit la raison, ils peuvent avoir le désir de blesser leur conjoint. Un client se disait à lui-même en trompant son épouse, « Tiens, prends ça, ma grande !» Mais pas nécessairement. L'important, c'est que ces individus sont harassés par les frustrations imposées par leur conjoint et c'est ce qui les pousse à les tromper. Un auditeur venu à l'une de mes conférences sur l'infidélité, qui connaissait mon projet d'écriture sur le sujet, m'expédia le courriel suivant. Je crois que vous prenez mon cas. Excusez-moi. C'est écrit, je crois que si vous prenez mon cas, vous serez quasiment capable de faire un chapitre de votre livre juste avec mes frustrations avec mon épouse. Les 50 maisons que nous avons visitées et qui ne faisaient jamais son affaire, les fois où je lui demandais d'aller chez le coiffeur, de s'habiller en neuf, de décorer la maison, de laisser les enfants plus libres, d'enlever la clôture, de ne pas décider à ma place au bureau, de venir en voyage avec moi, et combien d'autres raisons encore, trois petits points. Dieu merci, il y en a eu plusieurs de corrigés depuis le début de notre thérapie avec le psychologue X que nous avons entreprise à la suite de la découverte de ma liaison extra-conjugale. Et comme par hasard, je ne me sens plus amoureux d'elle. D'autres personnes veulent plutôt rendre l'autre jaloux ou simplement attirer son attention. Ne me tiens pas pour acquise. Ce qui peut aussi être une façon de prendre du pouvoir sur l'autre. En effet, celui qui trompe rehausse son statut par rapport au conjoint trompé. Et parfois, c'est ce qui fait le plus mal. On ose transgresser un interdit ayant l'air de dire, tu vois, je suis assez fort pour t'affronter. Alors, respecte-moi davantage. Souvent, cette forme d'infidélité est l'apanage de ceux qui manquent d'affirmation d'eux-mêmes dans la relation conjugale et qui expriment leur désaccord et leur frustration de façon détournée. Mais j'imagine que cette rébellion contre le conjoint est encore plus fréquente quand la séparation est vue comme impossible, soit à cause des lois ou des pressions sociales, ou tout simplement parce que la personne se sent incapable d'envisager une telle éventualité. Alors, je vais m'arrêter ici à cause de l'heure et dans environ 2 semaines, on pourra continuer cette liste des objectifs qui expliquent une relation extra-conjugale. On parlera de compenser les lacunes conjugales, maintenir une distance conjugale et ainsi de suite. Alors, chers auditeurs, c'était donc Psycho-Balado avec Yves Dalpé, psychologue. Et puis, vous pouvez visiter mon site internet www.dalpecote.com et on se retrouve dans environ 2 semaines.